L'émission que vous vous apprêtez à écouter est une rediffusion.
Tous nos éditeurs et bienvenue à bord pour une nouvelle rencontre lusophone, l'émission qui vous propose d'en connaître davantage sur le Portugal. Hélène n'est pas avec nous, et en tout cas elle est par la pensée, et elle nous a préparé un petit billet d'humeur pour tout à l'heure. Ici à l'antenne avec moi Manu, bonjour Manu.
Bonjour tout le monde.
Comment ça va?
Ça va bien.
Bon, on est aussi avec Jeff qui est aux manettes.
Bonjour à tous, bonjour. C'est la forme.
Bon. Très bien. Cette semaine, la date du 1er décembre est une date anniversaire très importante car elle représente pour le Portugal la reprise de son indépendance après 60 ans de domination espagnole. Ce sera le sujet de notre chronique culturelle et nous suivrons l'aristocratie portugaise qui entend, en 1640, retrouver ses titres par la guerre de la restauration de l'indépendance du Portugal. Mais avant cela, c'est la petite chronique et un petit billet d'humeur signé Hélène.
Résonance 96.9.
Sur Rencontre Lusophone, on n'est pas à l'abri d'un coup de gueule ou d'un coup de cœur. C'est la petite chronique.
C'est la petite chronique.
Vendredi de la semaine dernière, l'Assemblée nationale française a voté la création d'une amende forfaitaire de 200 euros pour sanctionner l'usage illicite de stupéfiants. À l'heure où la France se demande encore si la mise en place d'une taxe pourrait être efficace pour lutter contre la consommation de stupéfiants, le Portugal autorise, lui, depuis déjà 17 ans, la consommation de drogue. Eh oui, à rebours presque du reste de l'Europe, le Portugal a décidé de dépénaliser non seulement l'achat, mais aussi la détention et l'usage de stupéfiants pour la consommation individuelle. La seule chose qu'il n'est par contre pas changée, c'est que le trafic de stupéfiants reste, lui, toujours interdit et punissable. En clair, ça veut dire que si quelqu'un est pris en train de transporter de la drogue juste pour sa consommation personnelle, il ne sera pas inquiété par la police. Et si ce même quelqu'un est surpris en train de fumer un joint, on ne le laissera pas continuer de consommer de la drogue sans rien faire. Non, non, on lui remettra une convocation pour passer devant un panel d'experts, de psychologues et de travailleurs sociaux qui tenteront de le dissuader de continuer à prendre de la drogue. Avec à la clé la possibilité de se voir prescrire une thérapie ou un traitement de substitution remboursé à 80% par l'État. C'est comme ça. Au Portugal, on considère les toxicomanes comme des malades et non plus comme des criminels. Mais attention, dépénaliser n'est pas légalisé, puisque la culture et la vente de stupéfiants restent quant à elles toujours illégales. C'est un paradoxe, vous me direz, c'est vrai, mais c'est déjà un début. Et finalement, avec le recul, on s'aperçoit que cette option de vouloir aider et accompagner plutôt que de sanctionner est déjà un vrai succès au Portugal. Puisqu'en 11 ans, c'est-à-dire depuis le début de la mise en place de cette politique, l'usage de drogue a fortement diminué. Aujourd'hui, le Portugal compte deux fois moins d'héroïnomanes qu'en 1999. Le taux de décès a chuté, puisqu'aujourd'hui, il est quasiment 5 fois plus faible que la moyenne de l'Union européenne. Quant au taux de nouvelles infections dues au VIH, il a été divisé par 18. Mais il faut dire qu'avant d'en arriver là, le pays a été longtemps montré du doigt par les autres pays européens, puisque la consommation de drogue y était un vrai fléau. Et cette politique unique de dépénalisation s'expliquerait en fait par l'histoire du Portugal. En 1973, à la fin de la dictature, le pays devient une plaque tournante du trafic international avec l'ouverture des frontières. Le nombre de consommateurs explose alors de façon exponentielle, et ce, malgré la mise en place de politiques répressives. À la fin des années 90, près d'1% des Portugais sont accros à l'héroïne et le pays détient le record de morts du sida lié à la drogue dans toute l'Union européenne. Alors, dos au mur, le pays décide de faire de la lutte contre la toxicomanie sa priorité. Et au lieu de réprimer, il décide de dépénaliser. Alors, on peut l'affirmer, oui, le modèle portugais, c'est un modèle à suivre. Et ne croyez surtout pas qu'à travers cette chronique, je sois en train de faire l'apologie de la consommation de drogue. Non, pas du tout. J'essaie juste de faire un constat et un état des lieux dans les deux pays qui nous intéressent. Pendant qu'au Portugal, on traite un problème de santé publique pour tenter d'éradiquer réellement la dépendance et la décadence des consommateurs de drogue, en France, on s'obstine à continuer d'appliquer une méthode qui a toujours échoué, c'est-à-dire qu'on réprime, on réprime et on réprime encore. Comment ? Eh bien en taxant, puisqu'ici on taxe tout et n'importe quoi. Alors messieurs les députés, est-ce bien raisonnable, à l'heure où la France rit jaune et où les contribuables se retrouvent encore et toujours devant un système fiscal aussi absurde des élus qui la méprisent, est-ce bien raisonnable de rajouter une autre taxe ? Moi je vous le dis, il y en a vraiment marre de ce vieux réflexe antidémocratique typiquement français qui consiste à créer de nouvelles taxes, de nouveaux impôts et de les aménager ensuite en fonction de l'électorat à qui l'on veut plaire à coups de niches fiscales et d'usines à gaz incompréhensibles.
sons em sonhos, quando as palavras não dizem o que somos.
L'heure de la chronique culturelle
de Rencontres lusophones.
Nous venons d'écouter le groupe Mesa avec Cuando as palabras. 1er décembre 1640, c'est le début de la guerre de restauration menée par le Portugal entre l'Espagne qui commence le 1er décembre 1640 pour se conclure le 12 février 1668 par le traité de Lisbonne. Cette date marque le début de la fin, si je puis dire, de 60 ans de règne successif des trois rois Philippe espagnols. Mais tout d'abord, petit retour en arrière.
Au XIVe siècle, en 1367, la mort du roi Pierre Ier entraîne une courte guerre de succession et l'accession au trône de son fils illégitime Jean Ier, grand maître de l'ordre d'Avise et fondateur de la dynastie du même nom.
Ce roi, surnommé Jean le Bon, a plusieurs enfants avec son épouse Philippa, fille du duc anglais Jean de Gand, dont l'infant Henri le Navigateur est à l'origine de la grandeur impériale du petit Portugal sous la dynastie d'Avise. Vous trouvez que nous remontons un peu loin ? Que nous aurions pu nous contenter de reprendre l'histoire à partir du roi Sébastien, dont la défaite, il est vrai, marque ce tournant de l'histoire ?
Mais l'histoire veut parfois qu'on la raconte en commençant par la fin. Et là, pour le coup, on comprend que ce n'est pas par hasard. C'est le premier roi portugais, enfin restitué au trône de Lisbonne en 1668, et nommé Jean IV. Il reprend ainsi la lignée des Jean appelés à régner après 1367, et la dynastie des Avises, interrompue par le zèle sauvage et fatal du jeune roi Sébastien sur les terres du Maroc, le 4 août 1578.
Rappelons-le, à la suite de la mort prématurée du jeune roi portugais Sébastien, qui profitant de la confusion créée par une crise de succession au Portugal, Philippe II d'Espagne envahit le pays pour l'incorporer à son royaume, avec le soutien de la grande bourgeoisie portugaise, qui voit d'énormes débouchés commerciaux dans les colonies de cette union ibérique.
Le puissant roi d'Espagne se désigne roi à titre personnel et monte sur le trône comme Philippe Ier du Portugal en 1580. Il quitte sa capitale Madrid pour s'installer à Lisbonne. En réalité, le Portugal continue juridiquement d'exister en tant que royaume, mais les couronnes du Portugal et de l'Espagne sont réunies dans la seule personne du roi, Philippe II d'Habsbourg d'Espagne.
Au début, l'union des deux monarchies est plutôt bien acceptée par les sujets portugais. En raison de la solidarité religieuse, le catholicisme prédomine dans les deux pays, de la complémentarité des deux économies et des liens dynastiques déjà anciens établis entre les deux monarchies.
Mais la situation se détériore vers la fin du règne de Philippe II. Il ne réside en définitive que 3 ans à Lisbonne avant de retrouver le plateau castillan. Par cette décision fatale, Philippe II se détache de ses nouveaux sujets portugais.
Après lui, c'est l'avènement du règne de Philippe IV d'Espagne, 1621 à 1640, sous le nom de Philippe III au Portugal, qui entraîne une fois encore la plus grande domination espagnole sur le Portugal. Philippe IV d'Espagne tente de faire du Portugal une province espagnole et finit par faire perdre à la noblesse portugaise tous ses pouvoirs.
L'occupation espagnole est brutale et tissée de massacres. L'Espagne augmente les impôts au Portugal afin de financer l'effort de guerre des Habsbourg contre les Hollandais pendant la guerre des 30 ans, 1618 à 1648. L'augmentation des taxes affecte principalement les marchands portugais et l'empire colonial portugais est de plus en plus menacé.
Hollandais et Anglais, pourtant alliés au Portugal mais en guerre contre l'Espagne, en profitent alors pour dépecer le bel empire colonial construit par les marins lusitaniens du Brésil à Macao.
C'est cette situation qui finit par aboutir à la révolte de la part de la noblesse et de la haute bourgeoisie portugaise. pris en étau entre des alliés prêts à soutenir le Portugal économiquement et une Espagne qui les pousse à combattre les Catalans. L'aristocratie portugaise refuse ces combats et prend le parti de combattre chez elle pour ses propres intérêts.
La guerre de restauration de l'indépendance est aussi le nom créé par les historiens nationalistes romantiques portugais du XIXe siècle. Elle est causée par la volonté des Portugais de se débarrasser de la domination des Habsbourg d'Espagne en détrônant Philippe IV d'Espagne, roi de Portugal sous le nom de Philippe III de Portugal, au profit d'un roi portugais.
Nous venons d'écouter Cadraogua, des Danses Ocultas. La guerre avec l'Espagne dure presque 28 ans et se déroule sur trois plans d'égale importance pour la cour de Lisbonne, le militaire, le diplomate et l'économique. Elle se divise en deux périodes principales.
Première période, 1640-1659. En 1640, le Portugal, entièrement désarmé, doit se fournir de tout l'équipement nécessaire, y compris la poudre, auprès des autres puissances européennes, notamment de la Suède. Il conclut la paix en Europe avec la France, les Pays-Bas, l'Angleterre et la Suède, mais ces alliances sont fragiles car elles ne concernent pas l'Afrique, ni l'Amérique, ni l'Asie, où les Portugais continuent à affronter, parfois violemment, les Français, les Néerlandais et les Anglais.
Fragile aussi parce que la France, par exemple, n'y voit que son propre intérêt, qui est de contrer le royaume de Castille. Mais elle l'abandonnera en 1659 par le traité des Pyrénées. L'Angleterre, elle, est absorbée par ses propres problèmes internes avec sa guerre civile entre le Parlement et le roi. Et à partir de mai 1649, le Commonwealth de l'Angleterre, mis en place par Cromwell, rejettera son allié portugais pour intensifier la guerre aux Indes et même sur son littoral.
Le Portugais manque également de soldats. Il doit recruter des mercenaires hors de ses frontières pour former ses troupes de première ligne. Ses secondes lignes, dites militias, sont recrutées sur place.
Il décide ainsi de remettre en fonction l'ordonnance créée à la fin du XVIe siècle par le roi Sébastien Ier et supprimée par les Habsbourg. C'est une armée territoriale de troisième ligne, une armée de conscription, où les soldats étaient par ordre, d'où son nom.
Il crée également de nouveaux instruments d'administration, un conseil de guerre et un conseil d'outre-mer. Le duc de Bragance a autour de lui de fidèles partisans, les fidalgos, des aristocrates, des gentilshommes chevaliers issus de la plus haute noblesse portugaise avec qui il élabore un complot.
Ces nobles déchus se pressent en discussion. Il est temps de conclure 60 ans d'humiliation. Ils sont 40 à s'interpeller les uns les autres autour du duc de Bragance, attisant les ardeurs et la motivation de chacun. Leur entreprise est à haut risque, c'est quitte ou double, on les appellera les 40 conjurés.
Ils mettent ainsi en place, en peu de temps, un formidable dispositif militaire coordonné en 3 niveaux. Une première ligne concentrée sur ces 3 grandes armées d'Alentej ou des Beira et de Traje ou Jmontes, mobiles et capables d'agir de concert à l'intérieur des terres.
Une deuxième ligne de milices régulières confiée aux fidalgos de province, plus mobiles et vigilantes sur l'ensemble de son territoire continental et sur les 4 principales lignes traditionnelles d'invasion.
Une troisième ligne, enfin, avec l'ordenanza, ou armée territoriale, couvrant tout le territoire portugais, avec des hommes en armes mobilisés dans leur municipalité, recrutés, entraînés et conduits par les grands capitaines de la noblesse locale.
L'ordonnance est très avancée pour son temps et très efficace. De proximité, dans le tout, le territoire permettra au Portugal sur le continent ou dans son empire, d'attaquer au plus tôt. Dans le même temps, elle couvre ses 2 grandes frontières avec la Castille, ainsi que sa ligne de côte et ses îles.
Côté papauté, elle a toujours été alliée à la Castille. Et pendant 28 ans, les églises portugaises se videront de leurs évêques, que Rome refusera de renouveler à mesure qu'ils meurent. Je vous propose de marquer une pause musicale avec Primera Hora de Danças Ocultas.
Thank you.
La guerre de 30 ans immobilisait la plupart des moyens militaires de l'Espagne, au royaume d'Aragon, en Catalogne, dans le Roussillon et aux Pays-Bas catholiques, aux prises à des rébellions généralisées. L'aristocratie portugaise se soulève à plusieurs reprises, en profitant de l'affaiblissement des Habsbourg, occupés à combattre sur le Rhin et sur les Pyrénées.
Notamment contre Olivares et ses récents desseins d'anéantissement de son indépendance politique, administrative et économique, jurée par Philippe I de Habsbourg lors de son acclamation à Tomar en 1581.
Ce soulèvement bénéficie du soutien du cardinal français Richelieu, heureux de jouer un bon tour à la maison des Habsbourg qui gouverne l'Espagne. Aide militaire promise de Richelieu qui s'est réduite pourtant au plan diplomatique. Le Portugal reçoit aussi l'appui intéressé des Hollandais et des Anglais qui enlèvent à l'Espagne le monopole du fructueux commerce des épices.
Cette prise de pouvoir s'est produite avec comme un véritable assaut longuement préparé. Le 1er décembre 1640, il s'empare du palais royal de Lisbonne et déclenche une insurrection contre la domination espagnole qui gagne rapidement les campagnes.
Au petit matin, 40 hommes en colère devenus frères d'armes quittent le palais de San Domingos, devenu aujourd'hui le palais de l'indépendance à Lisbonne, et avancent dans les rues de Baixa, emportés par la foule que les jésuites d'Antonio Vieira exaltent à coups de Te Deum.
Depuis l'esplanade du palais, les 40 conjurés se ruent dans les appartements royaux. Ils attrapent la vice-reine Marguerite de Mantoue, ses ministres et secrétaires d'État, les emprisonnent, et le principal de ses conseillers, le portugais Miguel de Vasconcelos, le traître qui s'était soumis à Madrid, caché dans une armoire, s'est trouvé tué sur le coup et jeté par la fenêtre du palais au peuple en délire qui le piétine.
On acclame les conjurés. Un nouveau souffle d'espoir envahit les rues de Lisbonne. La cité reprend ses titres et ses lettres de noblesse. C'est un jour béni. Après 60 ans de tutelle espagnole, les Habsbourg sont détrônés et le trône du Portugal revient le 6 décembre, sous peine de création d'une république en cas de refus de celui-ci au 8e duc de Bragança.
Une majestueuse procession menée par l'archevêque de Lisbonne, Dom Rodrigo da Cunha, conduit le même jour le peuple et les aristocrates à la cathédrale pour un solennel Te Deum en action de grâce. Annoncé par tous comme étant le digne héritier des Avis, le nouveau maître du royaume est joyeusement honoré par la foule. Jean de Bragance est reçu à Lisbonne comme roi légitime premier et couronné sous les acclamations populaires le 15 décembre 1640.
Au XVIIe siècle et XVIIIe, cette guerre de restauration était connue sous le nom de guerre d'acclamation, en rapport avec l'acclamation publique du duc Jean, dénommé dès lors Jean IV de Portugal, au balcon de la cour du palais royal de Ribeira, lorsqu'il jura les lois du royaume à Lisbonne le jour de son couronnement.
En janvier 1641, il convoque le Parlement portugais qui ratifie son élection à la couronne portugaise. Il prête serment devant les cortes le 28 janvier 1641 sous le nom de Jean IV du Portugal. Le 5e Empire renaît de ses cendres.
Deixa ser como um luar a minha vontade, como águia, ser águia sem nenhum problema.
Ser a gota, o grão de areia, a minha unidade. O deserto e do mar, a coisa pequena. Ter do tempo a claridade do sol promissor, como o índio. Ser o índio e valer a pena. E valer a pena. Sem outra razão. E valer a pena.
Ai, se eu pudesse. Sem outra razão, já valia a pena.
e de chorar ser do meu momento, como o vento ser o vento e a sua afeição,
ter da flor a sua essência só pelo prazer, só o ser, só o ser sem a condição,
amar-te só porque sim e valer a pena, só o sim, só o sim sem explicação e valer a pena sem outra razão, já valia a pena. Ai, se eu pudesse ter a paz pra te dar um pouco do céu, um pouco do sonho, um pouco de paz, sem outra razão já valia a pena.
Avec Carlão et Ala dos Namorados qui nous interprétaient Rasin au dessert. Nous en étions restés à Jean IV qui prêtait serment devant les Cortés le 28 janvier 1641 et donc le 5e Empire renaissait de ses cendres. Après Lisbonne, le Portugal continental et les îles européennes, les Açores et Madère, acclament à leur tour le nouveau roi du Portugal, sauf la ville d'Angra do Heroísmo, qui ne sera totalement délivrée des troupes castillanes que l'année suivante. Macao n'avait jamais reconnu les Habsbourg comme roi de Portugal et rentre dans la couronne portugaise dès 1641, la même année que tout le reste de l'empire colonial portugais.
Car le Brésil, l'Angola, Cap-Vert, Mozambique, les Indes portugaises, le Ceylan, Timor, acclament avec bonheur Jean IV, sauf le Maroc portugais, où la place de Ceuta, très proche géographiquement de la Castille, est très dépendante d'elle pour sa défense militaire, et son approvisionnement de nourriture décide de rester castillane.
C'est donc un pays très uni autour d'un roi très aimé, payant sans murmurer tous les impôts de guerre. Un pays tout en armes, entraîné massivement, que devront combattre les armées castillanes. Ainsi, dès 1644, les forces portugaises lancent des incursions en Castille.
Matthias de Albuquerque conquiert la ville de Montijo, en Estrémadure. Puis, le 26 mai 1644, remporte la seule bataille importante de cette période, la bataille de Montijo. Il est appuyé par Don Juan da Costa, le futur comte de Sourd, et par le comte de Cataneda, futur marquis de Maria Vale II. Ce dernier conquiert en même temps l'importante place forte castillane de Valência de Alcântara, que le Portugal gardera jusqu'au traité de Lisbonne.
La guerre continua, tout aussi ruineuse. Les années 1650 furent indécises sur le plan militaire, mais importantes sur les fronts politiques et diplomatiques. Au cours de ces années, il y eut dans la seule Estrémadure plus de 20 000 soldats espagnols à comparer aux 27 000 qui se trouvaient dans les Flandres.
Entre 1649 et 1654, c'est environ 29% des dépenses militaires espagnoles, plus de 6 millions de ducats, qui furent affectés à la lutte contre le Portugal. Chiffre qui devait encore monter pendant les grandes campagnes des années 1660.
Le Portugal, lui, fut en mesure de financer son effort de guerre du fait qu'il arriva à taxer le commerce des épices avec l'Asie et le commerce de sucre en provenance du Brésil et qu'il reçut un certain soutien des pays européens, adversaires de l'Espagne, particulièrement la Hollande, la France et l'Angleterre.
Néanmoins, le Portugal n'arriva pas à atteindre son objectif principal, un traité en bonne et due forme avec la France, si bien que sa faiblesse et son isolement se manifestèrent par le fait qu'il fut virtuellement exclu des négociations des traités de Westphalie, 1648, qui marquaient en Europe les débuts d'une politique tout à fait nouvelle.
Et tout de suite, Carlão avec Viver para sempre.
Minha cota, Aldi, mostra como é.
Meu Deus, eu vou viver para sempre. Eu vou.
Mas é bom.
Se a minha gente sempre, eu vou.
Anda comigo, saí na algazarra. Ouve o que eu digo, puto, ninguém nos agarra. Hoje pintamos a mata, fazemos a farra. E para onde vamos, não vamos barra. O melhor da vida sempre foi de graça. Assim o tempo passa, o que é que queres que faça? Larga lá o móvel e o Wi-Fi. Não é preciso rede, só o Wi-Fi. Dá-me Wi-Fi, sou de side. Dá-me Wi-Fi, eu e a night. Esquece o compromisso, assamos um chouriço. Bebemos um vinho, não penses muito nisso. A vida são dois dias, mas eu quero o terceiro. Que se lixe o dinheiro, saúde primeiro. Rimo no chuveiro e roço na patroa como o pedreiro.
Meu Deus, eu vou viver para sempre. Eu vou.
Mas é bom.
Se a minha gente sempre, eu vou.
Sabes?
Meu Deus, eu vou viver para sempre. Eu vou.
Mas é bom.
Se a minha gente sempre, eu vou.
Sabes? Vivo para sempre, sempre com os meus. Saí do ventre sem dizer adeus. A minha gente é o meu Deus. Vede, meu Deus, não somos ateus. Africanos, europeus, já não sei bem. Somos manos ou teus, serão de alguém. Não interessa de onde vem, se é por bem. Não interessa quem é quem, somos mais que 100. Mais que 1000, enchemos pulmões. Mais que 1000, cantamos refrões. Mais que 1000, juntamos nações. Mais que 1000, milhares de milhões. A vida são dois dias, mas eu quero terceiro. Que se lixe o dinheiro, saúde primeiro. Rimo no chuveiro e roço na patroa com o mundo verdadeiro.
Sente comigo, canta comigo. Sente comigo, dança comigo, canta comigo, vive comigo.
Meu Deus, eu vou viver para sempre. Eu vou.
Mas é bom.
Se a minha gente sente.
Grâce au traité de Westphalie, mettant fin à la guerre de 30 ans et aux hostilités en Catalogne en 1652, l'Espagne était de nouveau prête à concentrer ses efforts contre le Portugal. Mais elle manquait d'hommes, de ressources et surtout de bons chefs de guerre.
Et malgré ces problèmes internes, en 1654, les Néerlandais sont expulsés du Brésil et un traité avec l'Angleterre est signé également cette année-là et améliora temporairement la position diplomatique et financière du Portugal, lui assurant la protection dont il avait besoin contre un raid naval sur Lisbonne.
Dans l'Empire, Jean IV de Portugal est appuyé sur le trône par les jésuites, mais au début pas par le Saint-Office, qui doit mettre pour quelque temps un frein à ses activités au royaume portugais et dans les inquisitions de l'Empire, à San Salvador da Bahia et à Goa.
Jean IV règne jusqu'en 1656 et sera considéré comme l'un des plus grands rois de l'histoire du Portugal. Il a réussi à tenir tête aux armées castillanes, réputées invincibles. Sa mort, en 1656, marqua le début de la régence de sa femme Louise de Guzmão, suivie par une crise de succession et d'un coup d'État en 1662.
Cette première période consiste principalement en une série d'escarmouches régulières proches de la frontière, d'invasion et de pillage des villes frontalières de part et d'autre. Car lui succède alors jusqu'en 1668 une guerre régulière. Et c'est la deuxième période de cette restauration du Portugal entre 1659 et 1668.
Au traité des Pyrénées de 1659, Mazarin livre le Portugal à Madrid en échange du Roussillon catalan.
La France cède la Castille à l'Espagne, qui peut enfin retirer ses armées principales des autres fronts européens et les tourner vers le Portugal avec toute la force dont elle dispose encore.
Cette période de guerre classique est principalement marquée par quatre batailles importantes, toutes au Portugal et toutes remportées par les armées portugaises.
Elles se sont déroulées presque entièrement dans l'Alentejo. Pour les citer, la bataille d'Erves, le 14 janvier 1659, où on peut y voir l'aqueduc de la Mourera, monument commémoratif de la bataille des lignes d'Erves. La bataille d'Amechial, le 8 juin 1663. La bataille de Castel Rodrigo, le 7 juillet 1664. Et la bataille de Montes Claros, le 17 juin 1665.
Les opérations militaires cessent en 1665. La mort du roi Philippe IV d'Espagne, ex-Philippe III de Portugal à Madrid, en septembre 1665, met fin aux hostilités. Son successeur, Charles II d'Espagne, n'a que 4 ans. Et son oncle, le bâtard Juan José d'Autriche, se révolte contre la régente Marie-Anne d'Autriche. Ces circonstances facilitent la signature du contrat de Lisbonne.
Como ganho, vai se haver desperdiçados sem nada dar a ninguém. Anda, faz uma pausa, encosta o carro, sai da corrida, larga essa guerra que a tua meta está deste lado da tua vida. Muda de nível, sai de um estado invisível, põe um modo compatível com a minha condição. Que a tua vida é real e repetível, dá-te mais que o impossível. Que tu ganhas é a tua que mais perde se não vais. Sai de casa e vem comigo para a rua, vem. Que essa vida que tens, por mais vidas que tu ganhas, é a tua que mais perde se não vais. Troca de vício por outro novo. Que o desafio é copo a copo. Escolhe a arma, estratégia que não falha. O lado forte da batalha, põe no máximo poder. Dou-te a vantagem, tu com tudo eu sei nada. Que mesmo assim desarmada, vou-te ensinar a perder. Sai de casa e vem comigo para a rua, vem. Que essa vida que tens, por mais vidas que tu ganhas, é a tua que mais perde se não vais. Sai de casa e vem comigo para a rua, vem. Que essa vida que tens, por mais vidas que tu ganhas, é a tua que mais perde se não vais. Que tu ganhas é a tua que mais perde se não vais. Sai de casa e vem comigo para
vida que tens. Por mais vidas que tu ganhas, é a tua que mais perde se não vais.
E c'était Diolinda avec Un contre ou autre. Et nous allons maintenant presque toucher à sa fin, à cette histoire de l'indépendance. Nous sommes maintenant le lundi 13 février 1668 et grâce à la médiation du roi Charles II d'Angleterre, l'Espagne reconnaît l'indépendance du Portugal moyennant la cession de Ceuta. Ce traité est négocié entre les cours de Lisbonne et de Madrid par l'ambassadeur d'Angleterre, Lord Sandwich. Certes, le Portugal fait reconnaître son indépendance en 1668 une bonne fois pour toutes, mais il ne va plus sortir de l'orbite anglaise.
À la paix de 1668, il ne restera qu'un évêque dans tout le Portugal. Le pape refuse de recevoir l'ambassadeur portugais à Rome. Celui-ci, Dom Miguel de Portugal, évêque de Lamego, appartient à la maison de Vimios. C'est un Bragança de lignée illégitime. Il manque d'être assassiné dans une rue de Rome par l'ambassadeur de la Castille et de ses valets au cours d'une véritable bataille rangée et doit quitter la ville sans avoir obtenu aucun résultat.
Voilà, si en ce mois de décembre 1640 les bonnes nouvelles se sont accumulées, le Portugal a pourtant perdu de sa superbe. Et il faudra quand même un siècle pour que l'autonomie du Portugal soit totale. Il devient très vite un empire oublié. Avec Sébastien, la Saudade était déjà née. Là, la Saudade continue.
Não venha mais ninguém, ficamos só eu e você. Fazemos a festa, somos do mundo, sempre fomos bons de conversar. Eu só espero que não venha mais ninguém, aí eu tenho você só pra mim. Roubo teu sono, quero teu tudo, se mais alguém vier não vou notar. Preciso de você pra me fazer feliz. Não quero mais ficar aqui. Preciso me ver só pra me fazer maior. Pois quando você vem eu fico melhor.
Voilà, notre émission sur cette indépendance du Portugal est terminée. Mais nous allons continuer en musique. Nous venons d'entendre Brenda Dumar qui nous interprétait Mais Ninguém. Et nous allons continuer maintenant avec le groupe Resistência qui nous interprète À Noite.
Yeah.
Bon, ben aujourd'hui, nous avons une sélection musicale très d'actualité, très contemporaine. Trouve pas, Manu?
On a été trop rapide.
Trop rapide. Oui, puis ça change. Je trouve que c'est un peu différent, moins traditionnel, un peu plus. Car là, déjà, c'est un peu de rap. On appelle, c'est un peu le rap.
C'est du rock, non? C'est du rock qui vient de passer, ouais.
Oui, mais tout à l'heure, on écoutait Carlin aussi, qui est quand même très connoté.
Oui, un peu, oui, on va dire, ouais, un peu plus.
Ça change. Eh bien, on va continuer avec, ça, je ne sais pas si ça ressemble pas à Carlin, mais Carolina Deslandes, qui va nous chanter « Avid Toad ».
Un maximum de musique, un maximum de son.
96.9, c'est Radio Résonance.
Eh bien voilà, notre émission touche à sa fin. J'espère que vous en savez maintenant un peu plus sur l'histoire du Portugal et son indépendance. Nous allons nous dire au revoir, Manu.
Au revoir.
Merci beaucoup d'avoir fait cette émission avec moi.
Oui, il n'y a pas de quoi.
Bon, Jeff, on va se dire au revoir. On va vous laisser la parole une dernière fois. Et moi, je vous dis au revoir à tous. Je vous embrasse tous.
Au revoir à tout le monde.
À bientôt pour une nouvelle émission. Je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur Facebook, bien sûr. Vous tenez au courant de nos émissions. Mais Jeff, tout de suite, va vous en dire encore plus encore. Au revoir.
Eh oui.
Au revoir.
Rencontre lusophone, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés et de nous être fidèles. Rendez-vous ici même demain, dimanche à 15h et samedi prochain, naturellement, à 18h. Sans oublier le podcast de l'émission sur la page de Radio Résonance et sur notre page Facebook qui porte le nom de notre émission Rencontre lusophone au pluriel. Pour l'instant, continuez bien sur les ondes de Radio Résonance. Bonne semaine à tous. À tes mâches.
Aproximar. Só põe o creme.